Nous allons commencer par enfin, la première question qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est que la société civile ? Benoît Guillou, si vous voulez nous aider à essayer d'éclaircir ce concept.
Bonjour. Je crois que c'est important de commencer par essayer de définir ce que l'on entend par société civile, parce que ça ne va pas de soi. Vous verrez tout à l'heure, en page de couverture de notre numéro de la revue Projet qui vient de sortir, on a mis un hall de gare. Vous allez dire, ça va pas de soi, je vous aide pas beaucoup. Bah écoutez, reconnaissons-le, la société, c'est une notion polysémique et sans doute chargée au niveau émotionnel. Pour certains, elle suscite désespoir, un engagement. Pour d'autres, elle est sceptique, perplexe, voire elle suscite des peurs. Donc, la société civile désigne tour à tour, comme l'a dit Vincent, les syndicats, mutuelles, associations, ONG, collectifs de citoyens. Elle renvoie aussi à des domaines d'action très, très différents. Ça peut être dans le domaine social, écologique, droits humains, migration. Et enfin, elle fait référence aussi, à la société civile organisée, structurée. Donc, c'est les syndicats par excellence. Mais on voit aussi, depuis quelques années, que se développe dans nos banlieues, dans le milieu rural, une société civile plus informelle. Et en 2018, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes et tout récemment, Bleu Contou. Donc pour définir cette notion de société civile, je dirais que c'est le troisième secteur entre l'État et le marché. Et sans doute ce qui caractérise le mieux la société civile, c'est la notion de servir l'intérêt général. En général, ce sont des associations, des acteurs à but sans but lucratif ou à but lucratif limité dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Donc avant de donner la parole à mes collègues, au niveau de la revue Projet, donc on vient de sortir un numéro spécial et on sentait quand même depuis un moment que notre monde politique est en pleine recomposition. On a rencontré beaucoup d'acteurs et on voit qu'il y a un double défi. D'une part, l'ampleur, la gravité de la situation, la complexité. Et d'autre part, pour la société civile, il y a de plus en plus d'obstacles. Donc nous avons décidé, dans le cadre de ce numéro, avec une bande de cinq, Brigitte Fouillant qui est à Sciences Po, un collègue qui est à sociologue à Paris 8, un collègue du Caritas France et un jeune chercheur jésuite qui a travaillé sur Charlie Taylor, on a voulu travailler dans quelle mesure la société civile arrive-t-elle à peser sur les acteurs politiques. Donc pour ce faire, on a fait un partenariat avec le Pacte du pouvoir de vivre.
Vous pouvez nous rappeler ce que c'est ?
Oui, je ferai. Alors, je vous dirai plus longuement tout à l'heure et ce sera un peu l'objet de. On va le creuser parce que ça donne à voir et à penser. Mais en tout cas, concrètement, ce qu'on a fait, on a mené une trentaine d'entretiens anonymes à Paris et en région auprès de représentants associatifs, de mutuelles, de syndicats, mais aussi d'universitaires, de chercheurs, de spécialistes. Et donc, le propos de ce numéro, c'est de relater, d'analyser les résultats pour nous aider à voir dans le monde d'aujourd'hui dans quelle mesure la société civile peut nous aider à avancer. Donc on a fait un travail de type académique, en sciences sociales, les forces, les limites, mais aussi les dilemmes. Voilà. Et donc le sommaire de ce numéro, on a soulevé quatre enjeux majeurs. La tension, ce qui doit vous travailler aussi, entre radicalisme et compromis. Compromis, radicalisme, c'est récurrent. On a beaucoup travaillé aussi sur la question, la société civile, jusqu'où peut-elle coopérer avec les partis politiques? Troisième partie de ce dossier, c'est comment on fabrique du collectif, les ressorts aujourd'hui du collectif. Et enfin, on a essayé de prendre à bras le corps, quelles sont les conditions de l'efficacité de la société civile. Merci.
Merci. Brigitte, donc vous avez participé à l'élaboration de ce numéro et notamment il y a eu des enquêtes qui ont été réalisées au plan local. Qu'est-ce que peut apporter l'action locale à cette question ?
Merci et bonjour à tous. Oui, en effet, un des points saillants de notre enquête a concerné l'action locale des associations. Bien sûr, il y a bien d'autres volets qui sont développés dans le numéro, mais celui-là nous est apparu comme étant particulièrement important. Et comme le disait Benoît tout à l'heure, comme notre enquête a porté à la fois sur des responsables associatifs ou des participants associatifs de différentes régions, on est allé en Bretagne, on est allé dans le Nord, en Rhône-Alpes, on est allé dans le Poitou, enfin on a vraiment vu dans différents lieux comment l'action de terrain se passait. Et on peut dire que ce qui nous a à la fois surpris et et encourager, vous le verrez, c'est peut-être autour de trois points. Le premier, c'est la formidable vitalité des associations au niveau local, aussi bien en termes d'action de terrain qui a souvent une assez grande efficacité parce qu'elle s'adapte très vite à la réalité, à la fois des innovations, des expérimentations qui peuvent se faire de manière relativement souple et inscrit dans des sortes d'écosystèmes locaux, c'est-à-dire avec des relations entre plusieurs associations ou avec les collectivités locales, communes, intercommunalités, départements, etc. Et donc, quelque chose de très, très, de très vivant, en fait, et qui, dans un certain nombre de cas, peuvent avoir une influence sur la manière dont les politiques publiques se forment à un niveau plus large. Par exemple, en matière de transition énergétique, on voit bien que certains exemples d'actions locales en transition énergétique, par exemple en Bretagne, dans le Nord-Pas-de-Calais, il y en a eu, ont influencé certaines politiques publiques. Il en est de même, même si c'est un dispositif qui partait de l'État, pour le territoire zéro chômeur de longue durée, qui a été une expérimentation dont, dans l'enquête, on a vu qu'elle avait vraiment, sur le plan local, permis d'avancer sur la lutte contre le chômage.
En l'occurrence, ça continue.
Et ça continue, oui, et ça continue. Et donc, la question, c'est que, finalement, je vous donne deux exemples, il y en a d'autres, mais il n'y en a quand même pas autant qu'il pourrait y en avoir. Et donc, la première question, c'est comment est-ce qu'on peut gagner en visibilité, mais aussi monter en puissance et même imposer la reconnaissance du travail des associations dans les villes, dans les territoires, comme des éléments de réponse des politiques publiques aux enjeux d'aujourd'hui, aux enjeux d'aujourd'hui. Mais pourquoi ça monte pas plus? Parce que il y a des difficultés. Je vous apprendrai pas, parce que je suis sûre que beaucoup d'entre vous participent aussi à des associations, ils vont tout de suite voir de quoi on parle. Évidemment, il y a une question de ressources, les ressources financières des associations au niveau national, mais évidemment, a fortiori, au niveau local, sont difficiles à obtenir, de plus en plus difficiles, et les militants associatifs passent un temps fou à collecter des fonds publics, privés, des subventions, des dons, pour arriver à répondre aux besoins. Et ça a pour conséquence que, eh bien, les ressources humaines de ces associations, elles sont compliquées. Il y a quelques permanents, mais au niveau local, il y en a souvent très, très peu et énormément de bénévoles. Donc, évidemment, c'est limité. L'action, elle est relativement limitée. À cela s'ajoute que, on le sait tous, les bénévoles des associations, ils ont un certain âge, on va dire, parfois, pas toujours, mais enfin, ils sont hyper engagés. Là, l'enquête, elle a montré des personnalités vraiment fortes, engagées, remarquables, mais c'est vrai que la question de la transmission à d'autres est difficile, d'autant que beaucoup de gens n'ont pas le temps, sont actifs, etc., mais aussi parce qu'on vit dans un monde un peu différent, un monde où le numérique n'est pas seulement la capacité à manier du tableau Excel ou travailler avec l'intelligence artificielle, mais où finalement ces éléments-là font partie d'une nouvelle façon finalement de gérer les associations. Et donc il y a quelque chose de difficulté à gérer ce type de ressources et à avancer de manière plus forte dans ce domaine. Donc ça, c'est plutôt un constat un peu difficile qui montre, malgré la vitalité, une sorte un peu de fragilité, ou tout au moins, ça ne va pas jusqu'au bout de ce que ça pourrait être. Pourquoi ces associations qui font tant de choses, eh bien, ça ne passe pas plus au-dessus en termes de politique publique. Et donc, ça aboutit à des pistes, et ces pistes, on les voit dans l'enquête, elles apparaissent dans notre enquête, elles apparaissent parfois un peu en filigrane, mais parfois de façon très, très largement dite. La première piste, c'est une piste un peu générale, c'est-à-dire de dire, mettons en lumière le local davantage, ce qui se passe sur le terrain, et pas comme si le local, c'était un tout petit truc avec des toutes petites choses qui se font, et puis au-dessus, il y a ce qui est mieux, national, c'est plus beau, c'est plus chic, c'est plus tout ce qu'on veut, mais plutôt comme un lieu près du terrain où, en fait, s'élaborent aujourd'hui les réponses aux questions des habitants, des citoyens, les questions de mobilité, les questions d'école, les questions qui sont les questions de logement, etc. C'est là, en fait, qu'elles se forgent. Quelquefois, il y a des réponses nationales, mais quand il n'y en a pas, ou des réponses législatives ou des dispositifs, et quand il n'y en a pas, finalement, il y a des réponses, mais elles se font très souvent par le monde associatif. Et au niveau associatif, la piste pour arriver à donner de l'ampleur, à aller plus loin, c'est de travailler davantage ce relais entre le local et le national. Au fond, ce relais, dans l'enquête, on voit qu'il existe, et il ne faut pas faire de généralisation parce que les associations sont extrêmement différentes les unes des autres, mais souvent, il y a quand même un petit bémol sur la relation entre le local et puis les instances plus élevées. Le local, au local, beaucoup d'associations, de membres d'associations disent bah, quelquefois, on fait des choses remarquables, mais on a l'impression de ne pas être vraiment entendu ou qu'il n'y a pas vraiment de répercussions de ce qu'on fait. Ça ne donne pas de visibilité suffisante. Ou alors, on aimerait avoir aussi du temps de réflexion de fond et que cette réflexion de fond, elle puisse se faire aussi au niveau local, qu'elle n'est pas réservée à quelques-uns dans l'association. Le travail sur les expérimentations, les innovations locales, comment est-ce qu'on peut faire pour en faire des mesures politiques ? Et ceci, dans le numéro, vous le verrez, il y a une personne qui est professeure d'économie à l'Institut catholique de Paris, qui s'appelle Elena Lacidac, qui a accepté qu'un verbatim de son enquête soit publié et qu'il dit bien, elle dit un défi majeur pour l'action citoyenne, c'est la passerelle entre ce qui se passe à la base et puis les réflexions pour un projet de transformation sociétale. Et cela, ça montre qu'il faut trouver les outils. Et dans l'enquête, on voit bien que c'est un peu dans la mise en œuvre qu'il faut travailler. Vous savez, c'est pas seulement les idées, les concepts, etc., qui sont toujours très beaux, mais la mise en œuvre, la mise en œuvre, la mise en œuvre. Et donc, comment est-ce qu'on peut trouver les outils de ce travail à plusieurs échelles ? Quel fil tirer ? Comment est-ce qu'on identifie ce qui marche vraiment très bien, ce qui marche moins bien ? Comment on l'analyse ? Et peut-être comment, même si c'est un gros mot qui est souvent peu apprécié dans le monde associatif, et comment est-ce qu'on les évalue ? C'est-à-dire comment on a un regard réflexif dessus ? Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas ? Et donc, ça peut permettre, en travaillant sur ces outils, sur la mise en œuvre, de mieux articuler ce qui se passe de manière très vivante au niveau local, et puis la remonter pour que ça constitue des politiques publiques. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est de ça dont on a besoin, on le sait bien. À condition, enfin, de regarder et de coopérer aussi avec des mouvements qui sont pas toujours des associations, qui sont quelquefois des initiatives spontanées, des initiatives citoyennes très locales, souvent portées par des gens beaucoup plus jeunes, etc., et qui sont moins inscrits dans des mondes associatifs structurés. Et là aussi, il y a sans doute quelque chose à faire pour articuler davantage avec ce genre d'initiatives. En conclusion, vraiment, moi, ce que je dirais, c'est certains de nos enquêtés ont dit « bah ouais, l'action locale, ça a l'air d'être un peu du repli territorial parce qu'en fait, on n'arrive plus à se faire entendre au niveau national. » Mais en réalité, c'est pas du repli territorial. C'est au contraire un vrai levier de l'action publique. Et tous les éléments sont là pour que ça puisse se faire.
Benoît, je vais vous donner la parole pour... Brigitte a insisté sur l'articulation entre le local et le national. En quoi le pacte du pouvoir de vivre a travaillé là-dessus?
Oui, alors j'ai choisi, je propose de parler du pacte du pouvoir de vivre, parce que pour nous, c'est un collectif sans précédent en France. Je vais faire un petit test dans la salle, là, ici. Qui connaît le pacte du pouvoir de vivre, le PPV, comme l'acronyme?
Les lecteurs de la Croix.
Merci. Voilà, c'est un peu surprenant parce que le pacte du pouvoir de vivre réunit plus de 60 organisations parmi les acteurs les plus importants dans le domaine social et écologique. Et le pacte du pouvoir de vivre, c'est une expérience inédite interassociative. Donc je propose, j'ai mis le chrono, je vais essayer de faire en 10 minutes, de développer 3 points, de voir un peu les forces parce que c'est important. Aujourd'hui, comme la visibilité n'est pas bonne, sachons mettre des mots sur ce qui marche. Peut-être de soulever quelques défis, mais on verra après plus précisément, parce qu'on vraiment part du terrain, on a décortiqué, on a eu une série d'entretiens avec des gens du pacte et en dehors du pacte pour voir comment ce collectif interassociatif ONG, syndicat, mutuel s'est situé pendant en 2024, pendant les législatives. Donc d'abord les forces, ce serait une façon de mieux cerner le PPV, si vous me permettez. On va contextualiser mars 2019. Donc mars 2019, c'est quoi ? Ce sont les gilets jaunes. En face, on a le gouvernement qui essaye d'apporter un élément de réponse, c'est le grand débat national. Et c'est dans ce contexte...
qui a participé.
Voilà, donc c'est pour ça que je le tourne vers mon collègue. Et c'est dans ce contexte qu'une vingtaine d'associations à l'initiative de la CFTC ont décidé de créer le pacte du pouvoir de vivre pour faire entendre une autre voix, une autre musique. Ce pacte est porté par deux grandes figures. C'est important d'avoir des gens qui incarnent quand même les choses. C'est Laurent Berger et Nicolas Hulot à l'époque.
Laurent Berger, donc le patron de la CFDT à l'époque.
À l'époque. Et Nicolas Hulot, qui était responsable de la fondation Hulot à l'époque, qui maintenant c'est la fondation pour la nature et l'homme. Donc parmi les forces de ce collectif, c'est tout d'abord sa composition. En 2019, on compte 19 organisations, mais aujourd'hui on en compte plus de 60. Bon, manifestement, il y a un déficit de notoriété, mais parmi les membres du pacte du pouvoir de vivre, on a la Mutualité française, 80 000 salariés. On a la Fédération des centres sociaux, 15 000 salariés. On a la FAS, la Fédération des acteurs sociaux. On a des syndicats. On a le Secours catholique, 1 000 salariés, 60 000 bénévoles, un maillage national absolument extraordinaire. On a l'Oxfam. Donc on a une multitude d'acteurs qui sont enracinés localement, qui disposent de services de communication, de plaidoyer. Et donc je trouve que le pacte, ils incarnent une légitimité. Parce que si on totalise l'ensemble des bénévoles, c'est pas 1, 2, 3, mais selon notre directeur du CERAS, qui est statisticien de métier, on aurait plus de 10 millions de bénévoles au pacte du pouvoir de vivre. Et environ 200 000 équivalents temps plein. Donc c'est ça, c'est un visage de la société civile qui mérite qu'on s'arrête. L'autre intérêt, je dirais très vite, le pacte a permis en 2019 de dépasser le clivage habituel entre le champ social et le champ écologique. Il faut refaire un petit tour en arrière, ça n'allait pas de soi à l'époque. Eh bien, ils se sont mis autour d'une table, ils ont appris à se connaître, ils ont appris à échanger, à trouver un langage commun. Et ça se matérialise aujourd'hui à travers des propositions communes. Avant chaque échéance électorale, municipale ou présidentielle, ils sont en mesure de dire, voilà, sortons de la logique des silos. Après, leur mode de fonctionnement, c'est une gouvernance de type collégial, une culture du compromis. Et le pacte aujourd'hui, il existe depuis 6 ans. Donc ce n'est pas un pacte éphémère. C'est un pacte qui s'enracine dans la durée, dans le temps long. Donc je trouve que c'est aussi un élément important. Autre intérêt, c'est qu'il s'enracine localement. C'est que dès 2019, il y a un groupe qui va prendre racine. C'est à Concarneau en Bretagne. Et aujourd'hui, on compte une trentaine de groupes du pacte du pouvoir de vivre en Bretagne. Autre intérêt, j'arrête là-dessus sur le positif, c'est que souvent la société civile, on dit, elle manifeste, elle râle, et puis voilà, elle critique. Le pacte ne fait pas que ça. Elle a un regard critique sur la société, mais elle propose un projet de société. Elle est vraiment dans une démarche de proposer des choses. Bon, maintenant, 4 minutes, bon, ça va. Les défis, bon, ben les défis, l'union est réelle, mais elle n'est jamais acquise. Bon, ça, il faut être conscient, hein. La question, c'est de tenir, c'est pas facile. Une autre difficulté, j'ai dit qu'il y avait 60 organisations, mais ce sont des investissements à géométrie variable suivant les organisations. Ça repose sur beaucoup de bonne volonté. Après, j'ai fait part d'une expertise, la capacité de formuler des propositions. Mais finalement, aujourd'hui, ce n'est pas suffisant de réfléchir, de faire des rapports, d'avoir des think tanks. Il faut aussi savoir les incarner, ces propositions. Il faut savoir les porter, les mettre en musique et décrocher des rendez-vous. Et en fait, ça ne va pas de soi. C'est encore un autre métier, j'ai envie de dire. Après, le gouvernement, le mode de fonctionnement est plutôt de type collégial. Donc c'est bien, c'est plus horizontal, comme on dit. Mais après, c'est vrai que c'est plus lourd. Il y a des inerties, il y a des lenteurs, moins de réactivité. Mais voilà, je ne veux pas être trop dur avec les collègues. Je dirais plus le temps avance et plus le pacte du pouvoir de vivre est fort. Il s'améliore. Maintenant, pour réfléchir avec vous, j'ai abordé un point plus délicat. Concrètement, moi j'ai choisi de... Nous avons choisi, pardon, c'est moi qui ai écrit le papier, mais on a mené ensemble les entretiens, de travailler sur les acteurs de la société civile et leur influence sur les acteurs politiques. On a fait le choix d'un cycle politique qui correspond aux échéances électorales. On aurait pu choisir d'autres moments. C'est-à-dire que pour les municipales de 2020, le pacte du pouvoir de vivre a rédigé 10 mesures. Au présidentiel 2022, ils ont rédigé 90 mesures. 90 mesures. Donc vous voyez combien c'est difficile. Les réseaux sociaux sont un peu simplistes, voire outranciers. Au pacte du pouvoir, on est dans la nuance, la complexité. Et enfin, les législatives anticipées, en 2024, le pacte a proposé 16 mesures. Donc à chaque fois qu'il y a une échéance électorale, le pacte du pouvoir de vivre se réunit, il y a des groupes de travail, des plénières, et ils cherchent à interpeller les acteurs politiques, mais sans se confondre avec les partis. C'est vraiment une valeur cardinale du pacte du pouvoir de vivre, c'est un engagement politique non partisan. Donc vous voyez, on est dans la sphère politique à part entière, quand on travaille dans le domaine social, l'immigration, l'écologie, mais on a une posture apartisane.
Et là, vous avez commencé à vous réunir pour les prochaines législatives qui auront lieu dans un mois?
Ah non, mais là, ils sont au taquet, excusez-moi l'expression, pour les municipales. Mais ils sont aussi dans le noir, parce que là, c'est tellement compliqué. Et donc là, maintenant, si vous voulez, on va voir entre nous, on va réfléchir comment ça s'est passé pour les législatives de 2024. Et là, je ferai un peu mon travail de sociologue en étant un peu critique, parce qu'on voit la dynamique, mais on voit aussi les difficultés. Donc, chapeau, en 2024, après la dissolution de l'Assemblée, en l'espace de 3 semaines, le pacte du pouvoir de vivre va serrer les coudes avec l'AES. Qui connaît l'AES? Je crois que c'est même pire, c'est l'Alliance écologique et sociale, qui réunit notamment Greenpeace. Et donc, ils formulent ensemble 16 propositions. Donc, c'est plutôt bien. Après, j'entends une petite voix, ouais, mais le nouveau Front populaire, il n'a pas mis 3 semaines pour rédiger son plan. En 3 jours, c'était fait. Mais bon, voilà, la société civile a fait de son mieux, c'est collégial, on bosse ensemble. Donc, il se manifeste, certaines propositions sont reprises ou discutées, mais avec un peu de recul, soyons honnêtes, la plupart des propositions du pacte sont ignorées, l'influence est plus ou moins marginale. Donc là, c'est intéressant. Mais pourquoi? Donc, on parle de la société civile et la réalité politique. Je vais me limiter à 4 raisons. La première raison, c'est que c'est le contexte général. Depuis sa création, donc en 2019, le pacte du pouvoir de vivre dénonce un exercice de pouvoir très vertical, centralisé. Depuis maintenant plusieurs années, c'est difficile pour la société civile organisée, le pacte ou d'autres collectifs, d'obtenir des rendez-vous ou de travailler aussi bien avec des représentants du gouvernement que les groupes parlementaires, que les partis politiques, à l'exception notable de certains élus locaux. Donc ça, c'est un élément qui est avancé de la part du pacte. Les portes se ferment, le milieu est hostile. La société civile n'est pas prise au sérieux, sa légitimité n'est pas prise en considération. Maintenant, deuxième raison qui peut être critique, parce qu'on a vu d'autres acteurs extérieurs au pacte du pouvoir de vivre. Certains m'ont dit, des experts du plaidoyer, oui, chapeau, remarquable, mais enfin, le pacte, il fait ses 16 propositions à Paris, c'est un peu du Downton. Ça vient du haut, on parachute ça en bas, c'est un peu comme les tribunes. Vous savez, ici, il y a plein de gens, même des universitaires, on écrit notre tribune, on est content, mais tout ça reste dans le cimetière des tribunes en général. Donc certains disent, finalement, c'est pas suffisant de formuler des propositions, même si c'est remarquable, il faut les faire vivre. Donc la vraie question, c'est mais dans quelle mesure chacune des organisations membres a fait un travail en interne pour sensibiliser et discuter. Il y a un défi interne, mais il y a un défi externe aussi pour avoir les moyens pour se faire entendre et faire un peu de bruit au niveau des médias, des réseaux sociaux, des acteurs politiques. Ensuite, une autre critique, c'est qu'en faisant notre enquête, on s'est rendu compte donc, que 16 propositions ont été formulées et au sein du pacte, certains ont dit « ok, on a nos 16 propositions, maintenant allons voir les acteurs politiques, allons discuter avec eux ». Et là, il faut, on m'a confié que si certains souhaitaient et pensaient que c'était opportun d'avoir le courage d'y aller, en fait, en interne, le bureau, les gens considéraient non, on va pas plus loin. Voilà, une espèce de prudence, certains diront de prudence excessive, mais on a fait nos propositions, mais on ne va pas au-delà. Et maintenant, j'avançais un quatrième élément qui est pas facile. C'est que donc pour le pacte du pouvoir de vivre, l'idée était de se mobiliser face au développement des idées des partis d'extrême droite, parce que beaucoup d'organisations membres du pacte du pouvoir de vivre estiment que ces partis véhiculent des valeurs qui sont antinomiques avec ce qui crée ces associations. Maintenant, ce qu'il faut reconnaître, et les différents membres du pacte, certains le reconnaissent ouvertement, c'est que les idées de l'extrême droite, elles se développent, mais y compris dans les organisations membres du pacte du pouvoir de vivre. Donc vous voyez combien c'est difficile d'avoir une parole publique, politique, alors qu'en interne, finalement, on voit que les idées de la société elles circulent et qu'on retrouve cette mixité, y compris dans nos rangs, me disent certaines associations. Je peux les citer, c'est notamment par exemple, même y compris aux universités populaires d'ATD Quart-Monde. Pourtant, c'est tout un processus, il y a beaucoup de gens qui se laissent séduire par ces idées-là. Mais y compris pour nos amis du Secours catholique, c'est pas évident. Et après, on rentre vraiment dans des sujets compliqués. Certains vont dire, se mobiliser contre les idées d'extrême droite, mais que fait-on face aux idées d'extrême gauche? Enfin voilà, on est dans ce type de débat. Donc c'est pour dire que le pacte du pouvoir de vivre a le mérite d'exister, qu'il s'inscrit dans le temps, il a une puissance potentiellement vraiment importante, et que c'est avec plaisir qu'on va prolonger la réflexion ensemble.
Franck, comment vous voyez le pacte du pouvoir de vivre et qu'est-ce que propose Blounov en matière d'intelligence collective?
Alors, bonjour à toutes et à tous. Moi, je ne vais pas vous parler de Blounov, mais simplement, moi, je suis fondateur d'une entreprise qui travaille avec le gouvernement sur les démarches de démocratie participative. On a contribué au grand débat national, à la plupart des états généraux, et on va revenir sur ce concept d'états généraux parce que je le trouve particulièrement intéressant dans le contexte de la société civile à organiser. Les conventions citoyennes dont vous avez entendu parler, il y a trois conventions citoyennes qui ont été impulsées par le président de la République, la convention citoyenne pour le climat, la convention citoyenne sur la fin de vie, et une troisième dont on parle très peu, qui est la convention citoyenne sur les temps de l'enfant, qui est en ce moment, absolument, qui se déroule en ce moment. C'est pile le milieu de la convention citoyenne sur les temps de l'enfant, au 16 Conseil économique, social et environnemental. Puis il y a eu le Conseil national de la refondation. Enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont déployées depuis le premier mandat d'Emmanuel Macron, avec les difficultés inhérentes à ces exercices qui étaient un peu neufs, il faut bien le dire, en matière de démocratie participative. Le Grand Débat national a été une initiative un peu unique en Europe, souvent considérée comme un échec politique, en revanche considérée par la plupart des méthodologues comme un vrai succès méthodologique, un vrai succès populaire, parce qu'il y a eu 2,5 millions de citoyens malgré tout qui se sont déplacés, qui ont écrit les cahiers citoyens, qu'on appelait historiquement, enfin initialement les cahiers de doléances, qui ont envoyé des courriers et des courriers au gouvernement, etc. etc. Donc il y a eu, disons, des tentatives de l'exécutif depuis maintenant, depuis 2017, enfin depuis 2019, puisque le grand débat c'était janvier 2019, la crise des Gilets jaunes. Donc il s'est passé quand même beaucoup de choses. Pour autant, on remarque que la société, le concept de société civile est totalement impensé à l'échelle des politiques. En tout cas, le concept de société civile n'est pas exploité, n'est pas utilisé dans la plupart, pour ne pas dire toutes, les initiatives que je viens de décrire. Il y a une petite exception au travers des états généraux. Il y a eu, vous savez, des états généraux, il y en a eu une petite dizaine, hein, états généraux de l'alimentation, il y a eu les états généraux de la bioéthique, il y a eu les états généraux de l'information, les états généraux de la justice, etc., etc. Donc il y a quand même un certain nombre de démarches qui ont été tentées, mais avec une timidité, une pudeur, peut-être même une incompréhension de ce que signifie la société civile. Pour beaucoup de politiques, la société civile, c'est les citoyens, en fait. Hein. Puis quand ce n'est pas les citoyens, c'est le tissu associatif, pour faire simple. Là, vous arrivez avec une étude, une analyse, une enquête qui est plus précise, et je la salue, parce que c'est très intéressant d'aller un peu plus loin dans la taxonomie de ce que représentent les éléments constitutifs de la société civile. Il faut savoir quand même que aujourd'hui, dans l'actualité politique, on est très loin de cette compréhension des acteurs. Pourtant, quand on voit la débâcle ou l'impasse politique qu'on est en train de vivre, on est quand même en droit de se demander si finalement le rôle de la société civile, c'est presque, ça serait pas de jouer un rôle de permanence entre deux crises politiques. C'est-à-dire d'être d'une certaine manière la métastructure qui tient le bateau, qui est sur le pont, et qui fait en sorte que quand le politique change, eh bien la société civile, elle reste, elle demeure, et elle a un rôle à jouer. Mais pour qu'elle ait un rôle à jouer, il faut réussir à la mobiliser. C'est très compliqué, vous venez de le décrire. Le pacte du pouvoir de vivre, moi j'en avais entendu parler, je trouve ça effectivement très intéressant. Ça fait 6 ans que c'est né, et on voit que c'est quand même compliqué d'avoir un impact, quand même compliqué d'impacter les politiques publiques. Et donc, charge à nous de comprendre qu'est-ce qui fonctionne pas. Enfin, pourquoi ça achoppe et comment on pourrait optimiser ces démarches-là. Et je voudrais juste apporter, j'évoquerai d'autres angles plus tard, mais juste apporter peut-être une grille de lecture. Une grille de lecture tirée d'un certain nombre d'expériences récentes en la matière, la plus récente étant le lancement par la Mutualité française des états généraux de la santé et de la protection sociale. Et c'est une démarche extrêmement intéressante, au-delà du fait qu'elle est absolument critique en matière de prédominance dans le débat public aujourd'hui, la problématique de la santé et de la sécurité sociale. On vient de célébrer les 80 ans de la sécurité sociale, personne n'en a parlé, pas même le président de la République. Donc,
La Croix va faire un bureau spécial.
On n'est pas surpris par l'assiduité de la Croix, mais on aurait pu s'attendre à ce que ça prenne plus de place dans le débat public. En tout état de cause, la santé est clairement parmi les trois préoccupations essentielles des Français. Donc cette démarche qui est impulsée par la Mutualité française, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est pas impulsée par la puissance publique. Elle est impulsée par les acteurs de la santé. Concrètement, ça veut dire que les acteurs de la santé se retroussent les manches et créent un espace public, parler comme Habermas, quoi, c'est un espace politique neuf qui n'est pas initié par l'exécutif, par le gouvernement, qui est donc para-politique d'une certaine manière, qui mobilise les 400 et quelques mutuelles du réseau de la Mutualité française, mais qui mobilise également les professionnels du soin, de la santé et du lien, qui représente une somme considérable de personnes en France, qui mobilise les représentants des usagers, hein, des patients, et qui mobilise aussi les citoyens eux-mêmes. Et ça, c'est un élément intéressant, c'est-à-dire que la société civile, c'est à la fois des structures représentatives d'un certain nombre d'acteurs d'un écosystème donné, dans mon exemple celui de la santé, mais ce sont aussi des personnes physiques qui s'expriment individuellement en leur nom, en l'occurrence les citoyens. Et donc, arriver à fédérer ces collectifs qui sont à la fois des collectifs professionnels et des collectifs citoyens, individuels, qui s'expriment en leur nom propre et qui sont parfaitement profanes par rapport au sujet de la santé. Les citoyens ne sont pas des professionnels de la santé. Donc ils ont une vision en tant qu'usagers, une expertise en tant qu'usagers de la santé. Et encore, tous, fort heureusement, ne sont pas concernés par des problèmes de santé. Et pour autant, ils doivent pouvoir s'exprimer. Donc on a cette difficulté de faire émerger ces collectifs qui sont très divers et qui me font dire que entre l'État et le marché, on a tendance à dire qu'il y a la société civile, je serais presque prêt à challenger cette définition-là. C'est la société civile, c'est aussi le marché. C'est aussi les acteurs, dans mon exemple, les acteurs professionnels de la santé. C'est aussi les entreprises qui financent, je le rappelle, 50% des frais de santé en France, les employeurs, n'est-ce pas ? Et c'est aussi une partie de l'État, en l'occurrence les territoires, les collectivités, les élus locaux. Vous l'avez dit, c'est un peu une exception. C'est compliqué de mobiliser les élus locaux, la raison pour laquelle, dans cette démarche des États généraux de la santé, on s'associe à l'AMF, enfin l'Association des maires de France et à l'Association des maires ruraux de France. Bref, vous voyez que le périmètre, il n'est pas du tout stabilisé, il n'est pas du tout évident. Mais pour autant, je pense que c'est une véritable innovation que de considérer que la politique publique de demain, quand elle est produite par la société civile, elle n'est pas produite exclusivement par les citoyens, ce qui est une assumption, disons une hypothèse assez fausse en réalité, disons de l'exécutif qui a considéré que faire intervenir la société civile, ça voulait dire monter des conventions citoyennes. Dans les conventions citoyennes, il y a 150 citoyens tirés au sort ou 180 citoyens tirés au sort. C'est un entre-soi citoyen. Il n'y a aucun professionnel, il n'y a aucun expert, il n'y a aucun acteur des écosystèmes concernés. Ils interviennent timidement en tant qu'experts, mais absolument pas en tant que contributeurs. Voilà. Donc je m'arrête là, mais simplement pour dire que vous êtes au cœur, me semble-t-il, du vrai sujet, qui est de dire, face aux difficultés qu'on vit aujourd'hui dans le modèle démocratique et le modèle d'une démocratie représentative, dans un contexte où la sociologie a fondamentalement évolué, on n'est plus face à un citoyen électeur, on est face à des citoyens renseignés, informés, qui veulent avoir une voix au chapitre, parfois même une voix directe, hein, d'où les appels à la démocratie directe, rappelez-vous le RIC des Gilets jaunes, etc., etc. Et que dans ce contexte-là, on ne peut plus compter exclusivement, me semble-t-il, en tout cas c'est ma perception, on ne peut plus compter exclusivement sur une démocratie strictement représentative sans trouver un rôle particulier à la société civile. Enfin, en tout cas, on va zoomer peut-être sur des aspects plus opérationnels.
Merci. Marc répond, donc on a vu qu'il y a une société civile très organisée, très active au plan local, très active au plan professionnel, mais on assiste en même temps aussi régulièrement à des explosions de colère. On a parlé des Gilets jaunes, on a parlé de Bloquons tout plus récemment. Vous avez beaucoup travaillé sur ces questions, ces questions de quelle est la légitimité de la colère.
Oui, je vais... Non, comme ça c'est mieux, d'accord. Bon, d'abord, moi, je voudrais vous remercier de votre invitation à participer à cette rencontre ce soir et surtout vous dire combien je trouve passionnant tout ce que je viens d'entendre. Mais alors, vraiment absolument passionnant. Et alors, c'est très amusant parce que donc je vais parler là en dernier. Et moi, je termine par la démocratie participative. Et vous venez de me donner plein d'éléments et de répondre à plein de questions auxquelles je ne pouvais pas répondre dans mon exposé. Donc je vais arriver à la démocratie participative. Je me souviens qu'il y a une quinzaine d'années, avec le philosophe Bernard Stiegler, j'avais écrit un petit livre sur la démocratie participative, à une époque où on en parlait moins qu'aujourd'hui. Et peut-être il faut rappeler que l'idée de démocratie participative avait pris une importance particulière, puisque c'était l'un des concepts qu'avait mis en avant Ségolène Royal dans sa campagne pour les élections présidentielles. Et depuis, évidemment, le concept de démocratie participative a beaucoup évolué et il a été relancé à plusieurs reprises. Et là, vraiment, vous venez de répondre l'un et l'autre à plein de questions que je me posais, notamment celles sur les limites du grand débat. Voilà, et je pense que je vous rejoins sur ces limites du grand débat, parce que ce sur quoi vous venez de conclure. Et puis, moi, j'ai toujours tendance, chaque fois que je parle de ces questions-là, à fonder beaucoup d'espoir dans l'expertise du monde associatif. Et là, tel que vous venez de le présenter, je rejoins énormément de conclusions et d'éléments que vous venez de déployer. Mais je vais prendre les choses de beaucoup plus loin. Et dans le petit pitch pour la soirée qui m'avait été envoyé, il était effectivement question de la colère. Et c'est de cette colère-là que je vais partir. Je vais repartir de la colère. Je vais repartir, qui sont aussi, dans le fond, une des manifestations par lesquelles la société civile se rappelle à nous. Je vais partir de ces mouvements de colère qui se succèdent à un rythme en apparence plus accéléré et plus fréquent que par le passé. Et je vais développer quatre points au sujet de la colère. Donc le premier, donc je vous donne l'ordre et puis après je vais les développer chacun successivement. Le premier consiste à situer la colère parmi les passions politiques avec lesquelles le pouvoir, tout pouvoir, quel qu'il soit, doit compter. Le second concerne la nécessité de donner droit à l'expression de la colère comme baromètre de la démocratie. Le troisième concerne les raisons de la colère, j'en dirai un mot aussi. Et le quatrième, son encadrement, plus précisément les difficultés de cet encadrement de la colère aujourd'hui. Et là, je parlerai donc de la question qui m'est la plus familière, puisque j'ai beaucoup travaillé là-dessus, à savoir de la violence. Je vais donc prendre ces quatre points dans l'ordre. Gouverner aujourd'hui, c'est être nécessairement confronté aux passions qui traversent la société, qui la divisent et qui l'ébranlent, parfois même qui la mettent en danger. L'importance que les gouvernements leur accordent l'attention qu'ils leur portent, la façon aussi dont ils en usent de ces passions ou dont ils les instrumentalisent, distingue les régimes. Autrement dit, la façon qu'ont les gouvernements de gérer les passions politiques n'est pas la même selon qu'il s'agit d'une démocratie. Donc moi, je vais beaucoup rebondir sur le terme de démocratie qui apparaît dans notre titre. Donc la façon que les gouvernements ont de gérer les passions politiques n'est pas la même selon qu'il s'agit d'une démocratie, d'un régime autoritaire ou post-totalitaire, d'une dictature civile ou militaire ou d'une théocratie. Je vais redire trois passions qui traversent la société, qui la divisent, et montrer un peu comment toutes les questions que je viens de poser fonctionnent à partir de ces trois passions. La peur, la haine et la colère. Et la peur, la haine et la colère n'ont pas le même statut selon les régimes qui ne s'en servent pas de la même façon. Pour les régimes non démocratiques, la peur est un instrument du pouvoir. La haine fait l'objet d'une instrumentalisation pour diviser et pour dresser une partie de la population contre une autre. Le pouvoir en développe la culture pour cibler et exclure ceux qu'il juge indésirables. Les opposés, les opposants politiques, les étrangers, tous ceux qui se distinguent par une différence que le pouvoir n'accepte pas. Quant à la colère, donc je parle toujours des régimes non démocratiques, de ces régimes dont la démocratie doit par principe rester distincte. Quant à la colère, elle n'est légitime dans les régimes non démocratiques que pour peu et à la condition qu'elle se tourne et se retourne contre ceux et celles que le pouvoir désigne à la vindicte populaire. Pour le reste, ces manifestations, ces démonstrations de colère dans les régimes non démocratiques sont redoutées et réprimées, comme c'est le cas en Iran, en Russie, en Inde, qui n'acceptent pas que la population se retrouve dans la rue si la raison du rassemblement est sa contestation.
C'est intéressant que vous disiez que vous avez habité en Russie, l'URSS,
à la fin de l'URSS, oui. Je fais partie des générations.
C'est ça, oui.
Partie des générations qui devaient encore faire le service national. Et donc, moi, j'ai été envoyé en URSS entre 1987 et 1989 dans une petite république dont je suis très, très fier, à laquelle je suis très attaché, qui a fait beaucoup, beaucoup parler d'elle le week-end dernier, qui est la République de Moldavie, que je connais presque comme ma poche, qui est un pays extraordinaire et qui, pour l'instant, est un peu David contre Goliath. Mais là, aux dernières nouvelles, David a quand même gagné la partie. Donc voilà, je voulais expliquer. Donc ça, c'est le panorama de l'usage et de la gestion des passions politiques dans les régimes non démocratiques. Et merci de m'avoir rappelé l'URSS, parce qu'évidemment, c'est le pays que je connais en tête, et la Russie aussi. Donc maintenant, c'est plus l'URSS, c'est la Russie. Et évidemment que tout ce que je viens de dire, j'ai à chaque moment la Russie dans un coin de ma tête, l'Iran aussi, voilà, bon, sur la peur, la haine, la colère. Et il n'en va pas du tout de même avec la démocratie, ou du moins, il ne devrait pas en aller de même. Et si j'utilise ici le conditionnel, c'est que la façon dont un pouvoir démocratique se confronte à ses passions politiques, la peur, la haine, la colère, légère ou non, est le baromètre de sa fiabilité et de la solidité de ses institutions. C'est-à-dire, quand une démocratie bascule dans autre chose qu'une démocratie, eh bien, en général, c'est la façon qu'elle a de gérer ses passions politiques, la peur, la haine et la colère, qui changent du tout au tout. C'est ainsi que, de la peur, pour ce qui est de la peur, il y a une différence entre la volonté de s'en servir pour justifier un contrôle accru des populations et celle d'en faire, au contraire, un principe heuristique, un moteur de recherche, un vecteur de connaissance. Il y a des peurs qui sont légitimes, et il y a des peurs dont, en démocratie, il importe de reconnaître la légitimité, la peur du réchauffement climatique, etc., etc. Donc, tout n'est pas négatif dans la peur, elle est parfois nécessaire, si elle est le vecteur d'une prise de conscience. La haine, quant à elle, doit être proscrite. La différence entre la démocratie et les autres types de régimes, c'est que la haine n'y a pas sa place. Elle constitue une passion exclusivement négative. Aussi, le privilège des gouvernements démocratiques est-il de la combattre, la haine, de la réprimer. La haine n'a pas, ne devrait pas avoir droit de cité en démocratie, et ça fait même partie des choses qui la définissent. Pour peu que ce ne soit pas le cas, quand ça arrive, c'est le signe que la démocratie est fragile et que ce qui la définit, qui est le, ça c'est ma définition de la démocratie, ce qui définit la démocratie, c'est le respect de la pluralité dans l'égalité. Le respect de la pluralité des appartenances, des identités dans l'égalité des droits. Pour peu que ce soit pas le cas, c'est le signe que la démocratie est fragile et que ce qui la définit, qui est donc le respect de la pluralité dans l'égalité, est menacé, fragilisé, sinon remis en question. Et la colère, alors? Et la colère en démocratie? Il n'est pas sûr qu'elle soit un vecteur de connaissance. Je ne suis pas sûr qu'on apprenne grand-chose à se mettre en colère ou à exprimer sa colère. Parce qu'elle est souvent aveugle et parce qu'elle est sujette à des emportements très éloignés de la distance, du recul que les faits ou les situations qui les provoquent exigent pourtant. Et en même temps, elle ne saurait être tenue pour une passion négative. Donc là, je vais répondre à mon deuxième point. Je vais beaucoup plus vite sur le deuxième, troisième et quatrième point. Si. Pourquoi? Parce que répondre à cette question, c'est donner droit au second point que je me propose d'aborder, donc, qui est la nécessité de considérer l'expression de la colère comme un baromètre de la démocratie. Et là, je vais dire une ou deux choses auxquelles je tiens particulièrement, c'est qu'il y a un trait constitutif de la démocratie, c'est sa perfectibilité. La perfectibilité de la démocratie, c'est ce qui la distingue de tous les autres types de régimes. Les autres types de régimes ont, eux, en commun de s'estimer parfaits. C'est-à-dire d'être convaincus de répondre pleinement et de façon optimale aux besoins de la population et qui, pour cette raison, donc, ne souffre aucune contestation. Toute manifestation, comme je le disais tout à l'heure dans cette perspective, est vécue comme une atteinte à la sûreté de l'État. En Iran, en Russie, en Inde, partout. En démocratie, c'est l'inverse, justement. Ce qui la définit est de ne jamais être égal ni à la hauteur de son principe. En d'autres termes, d'être imparfaite et donc perfectible. Ce qui lui donne tout son sens est l'espace qu'elle laisse, donc, et c'est vital pour la démocratie de laisser cet espace, de penser que cet espace est nécessaire. Ce qui lui donne tout son sens à la démocratie, c'est l'espace qu'elle laisse à l'expression d'une insatisfaction, d'un inachèvement, d'une justice à venir qui est la traduction de cette perfectibilité. Cela signifie que les droits que garantit la démocratie, les libertés qu'elle accorde, ne peuvent jamais être tenus pour suffisants, pleinement satisfaisants, pas plus que les protections qu'elle donne, de telle sorte qu'il n'y aurait plus rien à revendiquer, à demander, aucun mécontentement, à faire connaître. Voilà pourquoi, alors je sais, ce que je dis là est une provocation, mais c'est une provocation, pas une bien grande provocation, mais j'y crois profondément, la colère c'est une vertu démocratique. La démocratie doit laisser place à la colère. Et quand elle n'en est plus capable, quand elle n'en a plus ni la force, ni les moyens, c'est alors qu'on peut redouter le pire et craindre, comme c'est aujourd'hui parfois le cas, qu'elle bascule dans son contraire. Il est donc légitime, contrairement à ce qu'on entend dire souvent, qu'en démocratie, la rue prenne parfois le pouvoir, qu'elle fasse entendre son désaccord, qu'elle fasse entendre la distorsion entre ce que les gouvernements proposent et ce que la population attend. Il n'y a rien de plus terrible, il n'y a rien de plus inquiétant en conséquence qu'un gouvernement démocratique qui redoute, qui appréhende et qui réprime la vox populi. Pour peu qu'un gouvernement démocratique se retourne contre elle, il s'auto-détruit comme gouvernement démocratique. Il détruit ce qui le distingue comme tel. Troisième point. Il reste que ce que je décris là, c'est une situation idéale qui ne rend pas vraiment compte de la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire des raisons présentes de la colère. Et donc là, je m'achemine vraiment vers les questions qui étaient les vôtres. Ce qui gouverne la colère aujourd'hui, là je parle à la fois du mouvement des Gilets jaunes, de la journée Bloquons tout, qui était quand même de beaucoup moins grande ampleur. Ce qui gouverne la colère aujourd'hui est sans doute plus profond. Et ça révèle, me semble-t-il, un véritable dysfonctionnement de la démocratie. Un véritable court-circuit. Lequel? Eh bien, précisément, le court-circuit de l'écoute. Si une partie de la population est en colère aujourd'hui, c'est parce qu'elle vit avec le sentiment de ne pas être entendue, c'est-à-dire d'être inconsidérée et déconsidérée. Et c'est cette inconsidération, cette déconsidération qui sont indissociables d'être enfermées dans ce que j'ai pu appeler ailleurs, et l'expression je la reprends souvent chaque fois que c'est possible, ce que j'ai pu appeler ailleurs des conditions d'inexistence. Des conditions d'inexistence. Ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est, me semble-t-il, qu'une partie de nos concitoyens ont le sentiment persistant, et c'est parfois un sentiment transgénérationnel, de ne pas exister aux yeux du pouvoir. D'inexister donc. La colère, dès lors, trouve son fondement dans la frustration d'une écoute. Ce qui veut dire qu'elle se nourrit d'un ressentiment. Contre tout ce qui apparaît partie prenante dans cette frustration. Ressentiment contre les élites, contre les médias traditionnels, contre la classe politique, celle en tout cas qui se partage le pouvoir depuis des décennies. C'est aussi ce qui donne à la colère aujourd'hui, me semble-t-il, la dimension d'un... C'est très inquiétant cette dimension-là, cette caractéristique de la colère que je vais signaler à présent, c'est que la colère aujourd'hui, elle a davantage la dimension d'un rejet que d'une véritable révolte au sens que Camus pouvait donner. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup moins active, beaucoup moins créative, beaucoup moins productrice. Et c'est ce qui me permet d'en venir, j'arrête, je promets là, à mon quatrième point qui est l'encadrement, ou plutôt le difficile, sinon impossible, encadrement de cette colère, c'est-à-dire de ces débordements. C'est-à-dire de la violence. Dans les luttes traditionnelles, la violence était encadrée, dirigée. Même Georges Sorel, dans ses réflexions sur la violence, traite essentiellement d'une violence dirigée, d'une violence encadrée. Ce n'est plus le cas aujourd'hui pour une raison très simple qui est la suivante. La mobilisation de la colère, elle n'est plus verticale. Elle n'est plus appelée par des partis, par des syndicats, hiérarchisés, avec des autorités, c'est-à-dire par tous ces contre-pouvoirs verticaux. Elle n'est plus verticale, mais horizontale. Elle n'émane pas des partis ni même des syndicats, elle est appelée par les réseaux sociaux, ce qui rend son encadrement impossible. Elle est, en un autre mot, pour dire quelque chose d'un autre mot, elle est anomique. Elle est anomique, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de loi propre. Peu constructive, elle est peu constructive politiquement dès lors qu'elle perd à s'organiser, qu'elle peine à s'organiser au-delà du rassemblement. Et donc je vais conclure. Et je voudrais conclure pour finir sur une note aussi inquiète. Vous savez que, enfin, c'est l'une des théories possibles sur la démocratie, c'est qu'on considère qu'il y a quatre grands modèles de démocratie. Qu'il existe quatre grands modèles de démocratie qui se sont plus ou moins succédés dans le temps. Il y a ce qu'on appelle la démocratie de protection, qui est celle qui s'impose au XIXe siècle, et dans lequel tout simplement la démocratie était pensée comme le meilleur moyen de défendre les intérêts des riches contre la colère des pauvres. C'est pour ça qu'on l'appelait démocratie de protection. C'était une démocratie censitaire, essentiellement masculine. Et puis, le deuxième grand modèle de démocratie, je vais très vite, c'est ce qu'on appelle la démocratie d'épanouissement, auquel correspond le New Deal américain, par exemple, et dont l'un des grands théoriciens est le philosophe pragmatiste américain John Dewey. Et là, la démocratie est pensée tout à fait autrement. Elle est pensée comme un système politique qui permet l'épanouissement de tous par le développement de leurs facultés. Et c'est ça qui me fascine dans l'intitulé. C'est, alors dis-donc, parce que moi,
pacte du pouvoir de vivre.
Pacte du pouvoir de vivre. Parce que dans l'idée de pacte du pouvoir de vivre, c'est l'idée de pouvoir de vivre sur laquelle moi je pourrais là, mais je ne vais pas le faire, hein, rassurez-vous, mais là je pourrais partir une heure sur le pouvoir de vivre. Et vous savez que le grand économiste, prix Nobel d'économiste, Amartya Sen, dans un rapport de l'ONU qui doit dater du début des années 2000, que j'ai beaucoup travaillé et cité à un moment, qui portait sur la peur justement, il en appelait, il disait, mais dans le fond, ce qu'il faut espérer, ce qu'il faut désirer, c'est que les populations apprennent à surmonter la peur par leur développement de leurs capacités. Voilà. Et donc c'est ça que j'entends, moi, dans ce que vous dites là. Et donc, la démocratie d'épanouissement, c'est une démocratie qui fait ce pari-là, qui considère que, dans le fond, la vocation de la démocratie, c'est l'épanouissement de tous par le développement de leurs facultés, l'égalité des chances, le droit au bonheur et à la prospérité. C'est l'horizon de la démocratie. Égalité des chances, droit au bonheur et à la prospérité. Et puis, il y a un troisième modèle. C'est le nôtre. C'est celui qui est en crise. C'est celui qui va pas très bien nulle part dans le monde. C'est la démocratie d'équilibre, ce qu'on a appelé la démocratie d'équilibre, qui était conçue sur le modèle du marché. Avec, dans le fond, des équipes concurrentielles déterminant l'offre et la demande de produits politiques. Et c'est un modèle dont on peut légitimement se demander dans quelle mesure il n'est pas à bout de souffle et inadéquat aux aspirations de la population. Et très certainement que l'aspiration aujourd'hui à un régime autoritaire qu'on voit un peu partout, qui s'affranchisse effectivement des règles démocratiques, hein, tout ce qui est la désaffection de la démocratie aujourd'hui, ça correspond à l'essoufflement du modèle de la démocratie d'équilibre. Et puis il y a le quatrième modèle. Et le quatrième modèle, c'est celui dont vous avez remarquablement parlé, et donc je ne vais pas en dire grand-chose, c'est celui de la démocratie participative, de la démocratie qui est à inventer, d'une démocratie à venir qui serait la seule chance pour la démocratie. Et là, en général, quand on me demande d'en parler sur la démocratie participative, mais c'est quoi, comment ça se traduit, il y a toujours deux choses que je mets en avant, et alors c'était donc vous m'avez apporté du pain béni, je mets toujours en avant en réalité que la société est beaucoup plus active qu'on ne le veut et qu'elle est effectivement constituée d'un incroyable maillage de réseaux associatifs et de gens qui cherchent à faire bouger les choses, mais que le grand problème, c'est que très souvent, et c'est un peu comme ça que j'ai entendu ce que vous disiez, c'est que quand même très souvent, ces mouvements associatifs sont perçus par les autorités, par les pouvoirs, comme des empêcheurs de gouverner en rond, et donc très insuffisamment écoutés. Et puis, l'autre exemple que je donne toujours, mais alors avec plein de réserves, plein de points d'interrogation, qui étaient les vôtres, si j'ai bien entendu ce que vous disiez, c'est effectivement les conventions citoyennes, qui sont des modèles de démocratie participative, problématiques, mais qui sont quand même des modèles expérimentaux de démocratie participative. Et puis, le grand débat qui a suivi le mouvement des Gilets jaunes. Voilà.
J'ai peur d'avoir été beaucoup plus long.
Été très long, mais c'était très intéressant.
Parce que j'ai pas regardé ma montre.
Je vais passer la parole à Hassal. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur. Attendez le micro, c'est la meilleure solution. Non, monsieur, très bien.
Jean-Claude Devez, Pacte Civique, qui est membre du Pacte de Pouvoir de Vivre, et je représente les convivialistes au Pacte de Pouvoir de Vivre.
Donc, qu'est-ce que c'est que les convivialistes?
Alors, les convivialistes, c'est un mouvement, une internationale convivialiste qui est créée par Alain Caillé et qui fait pour le moment des manifestes. En particulier, son prochain manifeste, c'est contre la violence et le brutalisme. La brutalité, donc, c'est comment on est brutal ou convivial. Donc, par rapport au concept de société civile avec Patrick Vivray, on a le concept de société civique, c'est-à-dire les associations et mouvements qui mettent en priorité le politique dans leur travail. Alors, ma question portera plutôt sur l'union de la société civile. Comment arriver à une union de la société civile si on n'a pas une identité claire? Moi, ces problèmes d'identité me sont venus quand le pacte de pouvoir de vivre a rencontré le Parti socialiste vers les années 2021. Et dans cette réunion, le Parti socialiste était incapable de donner son identité. Et donc, le problème d'identité des partis, est-ce qu'ils sont humanistes? Est-ce qu'ils sont personnalistes communautaires? Qu'est-ce qui va faire que la société civile s'unisse alors qu'elle est très dispersée? Et un des défauts, disons, comme Benoît l'a dit, on fait beaucoup de propositions, mais ces propositions arrivent en chenille, les unes à côté des autres, chacun dans son couloir de nage, et il n'y a pas à la fois une identité suffisamment forte commune et à la fois la démocratie au centre du pacte de pouvoir de vivre.
Qu'est-ce qui veut répondre?
Donc vous avez raison, hein. Cette notion de société civile, je n'ai pas les chiffres de mémoire, mais c'est beaucoup, beaucoup de monde, et c'est d'abord dans le champ sportif, culturel. Ceux et celles, les citoyens et citoyennes qui s'engagent pour des causes comme le droit des migrants, une écologie politique, ils sont minoritaires, voire ultra-minoritaires. Cela dit, souvent le changement social devient aux marges et c'est des minorités actives. Et franchement, la série d'entretiens que nous avons conduits, nous, ça nous a donné de l'énergie, parce que c'est difficile au quotidien, mais ce sont des gens courageux. Après, la fabrique du collectif, d'une part, et l'inscription dans le temps, que ce soit au niveau politique ou société civile, mais même y compris au niveau des acteurs religieux. Si on prend l'exemple ici, on est au centre, pas Sèvres, mais aux facultés Loyola Paris, c'est difficile, hein. On voit bien que... Alors, est-ce qu'il y a... Donc, nous, dans notre dossier, là, je ne veux pas le faire parce que c'est un peu laborieux, parce qu'on se focalise beaucoup quand même sur la dialectique compromis-radicalité. Je pourrais revenir dessus. Mais dans le cadre de ce, sur la base de notre série d'entretiens, on a essayé de dégager six éléments majeurs pour pouvoir peser dans la sphère publique ou dans le champ politique. Mais non seulement aujourd'hui, ce que notre enquête, alors c'est intéressant, c'est qu'autrefois on se disait tel type d'acteurs, ils sont plutôt compromis, celui-là il est plutôt radical, etc., etc. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une grande plasticité. Aujourd'hui, on voit que quand les portes se ferment, quand le dialogue n'est plus possible, beaucoup d'acteurs de la société civile se tournent vers le juridique, vers le contentieux. Et donc, notre enquête, un des mérites, on a mis en avant un certain nombre d'éléments qui permettent de peser et de faire avancer les dossiers. Mais alors là où c'est très compliqué, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne idée, une campagne. Il faut aussi être terriblement, redoutablement courageux au niveau politique pour faire face aux obstacles qui sont de nature structurelle, mais aussi conjoncturelle. Et peut-être la force de la société civile, eh bien c'est la pugnacité, c'est de s'inscrire dans le temps et de trouver les fenêtres d'opportunité, les interstices. Parce qu'il faut être réaliste, on parle de la société civile, c'est beaucoup de monde, mais le rapport de force, il est asymétrique. À Bruxelles, on est souvent sur un rapport face au lobby économique très très puissant, certains disent de 1 à 100. Mais cela dit, on voit que notamment, alors ce qui est relativement nouveau aujourd'hui, c'est la voie juridique. L'État français était condamné en raison de son inaction dans le domaine climatique. Donc il y a des choses qui avancent. Ce n'est pas parfait, mais en tout cas, nous, c'est un peu ce qui se dégage de cette étude. À la fin, on a même dégagé 4 points saillants en disant, en tout cas, ça donne des raisons d'espérer et de pouvoir de vivre. Donc malgré tout, même si ce n'est pas parfait, je continuerai
dans ce sens. Et puis Franck,
moi, j'ai une question.
Mettez bien le micro contre.
Tout à l'heure, je souriais parce que je pensais à mes étudiants. Et s'ils entendaient la question là qui a été posée tout à l'heure, ils diraient, mais Monsieur Crépon, c'est la convergence des luttes. C'est la convergence
des luttes. Mettez bien contre.
C'est la convergence des luttes. Mais bon, ceci dit, la question que je voulais vous poser, c'est sur ce pacte du pouvoir de vivre. est-ce que toutes les associations qui sont mobilisées, est-ce qu'elles fonctionnent comme une addition d'associations qui se sont entendues voilà, sur Impact, ou est-ce qu'elles fonctionnent en réseau? Est-ce que ça se croise? Est-ce qu'il y a des manifestations organisées en commun? Est-ce qu'il y a des formes d'action communes? Voilà, comment ça s'articule?
Alors, sur la base de l'enquête, je ne suis pas sûr que je puisse vraiment répondre. D'accord. Je pense qu'il y a des temps forts.
Est-ce que c'est un réseau ou est-ce que c'est une addition? Voilà.
Non, mais après, il y a des liens qui se créent. Par exemple, sur le budget, le Pacte du pouvoir de vivre a recruté une personne pour faire du plaidoyer à temps plein. Et là, il y a un groupe de travail sur la base du volontariat, mais aussi de la légitimité des différents acteurs. Donc, suivant les thématiques qui sont convoquées, on ne va pas retrouver forcément les mêmes personnes. Après, c'est clair qu'il a été décidé que par rapport au municipal et la présidentielle, c'était deux temps majeurs et qu'il y avait une volonté vraiment de mettre des moyens. Mais par exemple, le pacte du pouvoir de vivre a aussi créé une école du pacte du pouvoir de vivre pour former des jeunes par rapport au champ politique, au changement social. Mais là, à nouveau, alors c'est dommage, mais après une première promotion de l'école du pacte du pouvoir de vivre, cette initiative a été suspendue la seconde année faute de moyens. Donc c'est ça aussi dans notre dossier, la quatrième partie, les conditions de réussite, ben c'est la question des finances. Et on voit aussi bien en France, mais aussi au niveau international, hein, vous avez vu USAID, l'AFD, aujourd'hui toutes ces associations sont dans des difficultés, c'est un impact direct auprès des plus démunis, mais c'est aussi pour la vitalité démocratique.
USAID, vous faites référence
à USAID.
Ouais. Donc c'est la structure qui avait été créée par Kennedy aux États-Unis, qui a énormément aidé dans tout le monde entier, et Trump a coupé tous les budgets. Franck.
Non, mais je m'interroge quand même sur l'efficacité de l'action de la société civile quand cette action-là ne se traduit pas par un livrable, une conséquence politiquement saisissable, politiquement acceptable. Le fait qu'il y ait de temps à autre une bascule vers le contentieux au travers de l'affaire du siècle, par exemple, où donc, des citoyens se réunissent pour intenter une action en justice pour saisir l'inaction du gouvernement en matière de transition écologique, je trouve que je suis pas certain que ça fasse avancer les choses en fait. Je suis pas certain non plus que une pétition qui ne soit pas assortie d'un mode opératoire pour le politique fasse véritablement changer les choses. La pétition contre la loi Duplomb, quand elle a atteint 1 million de signatures, ceux qui étaient à l'origine de cette pétition se sont regardés en disant « Bon, ben maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On attend d'être à 2 millions. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On attend peut-être d'être à 3 millions. » Et alors, je caricature, mais je pense que c'est un vrai sujet de se dire en quoi la société civile peut aider le politique au-delà de ses efforts de contestation. Moi, je pense que la société civile, quand elle organise sa réflexion collective, elle a deux obligations. La première, c'est de produire les consensus majeurs, fondamentaux, le socle commun de consensus que les politiques n'arrivent pas à faire émerger. Ces consensus, ce sont les accords fondamentaux, c'est le plus petit dénominateur commun sur lequel les acteurs de l'écosystème santé, de l'écosystème éducation, etc., sur lesquels ils s'accordent. Et puis, il y a des dissensus qui, évidemment, immanquablement se forgent. Eh bien, le rôle de la société civile, c'est de renseigner ces dissensus, de les tracer, de les délimiter et de les scénariser. C'est-à-dire de dire, finalement, je prends l'exemple de la santé, il y a un dissensus en ce moment sur le rôle de la data, le rôle de l'IA dans la médecine, la protection des données personnelles, très compliqué, médecine personnalisée, où est-ce qu'on va? Les gens ne sont pas d'accord. Très bien. Eh bien, renseignons ce dissensus-là et scénarisons-le. On peut avoir une société dans laquelle, demain, la médecine sera ultra personnalisée et elle permettra de faire de la prévention, etc. Ou, à contrario, autre scénario, une société dans laquelle on a véritablement sanctuarisé l'accès à la data, c'est un secret médical, etc., etc. Il faudra s'en sortir autrement. Et quand on a fait ça, c'est-à-dire que quand on a défini les consensus majeurs traversant la société et quand on a délimité les dissensus avec des scénarios porteurs, eh bien, c'est à la société civile d'aller porter ce bagage-là aux politiques. Et c'est une inversion de la charge de la preuve. C'est pas aux politiques, me semble-t-il, de par un projet, un programme, une intention lors d'une candidature à la présidentielle, c'est pas aux politiques d'arriver avec chacun, chacune, sa vision des choses. C'est à la société civile de porter les consensus, de les faire acter par les candidats 2027, et puis de les laisser trancher en fonction de leur couleur, de leur valeur, sur les dissensus et les scénarios rattachés à chacun de ces dissensus. Et je pense que si on arrive à faire ça, on inverse la charge de la preuve et on crée un autre logiciel politique fondamentalement différent qui n'est pas impulsé par la classe politique, mais qui est impulsé par le sociétal.
Vous voulez réagir ?
Ça me semble,
mais mettez bien le micro contre.
Ça me semble très 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 optimiste quand même. C'est-à-dire que c'est, je pensais être je me disais, tu vas être le philosophe utopiste. Ça c'est sûr. Mais peut-être pas. C'est peut-être pas celui qu'on croit qui est le plus utopiste parce que là, quand même, l'idée, ça suppose ça. Mais je pense qu'on touche quand même le fond du problème. Ça suppose quand même de la part du pouvoir politique qu'il reconnaisse à la société civile la capacité d'expertise. Et on a quand même vu que chaque fois, que ce soit sur les questions migratoires, sur plein de questions comme ça, où il y a des acteurs de terrain qui savent concrètement ce que c'est que la situation, le politique a beaucoup de mal à reconnaître, à accepter l'expertise de la société civile. Et quand il va être confronté après à tout un tas de lobbies, de systèmes de pression, la parole de la société civile, qu'il aura peut-être entendu, elle risque d'être aussitôt étouffée. Moi, je me souviens un jour, au moment de la guerre dans les Balkans. Un jour, dans la guerre dans les Balkans, voilà, Conseil de l'Europe a l'idée de réunir des philosophes pour savoir quels termes on allait utiliser pour qualifier la guerre dans les Balkans. Donc, moi, j'étais très impressionné, j'étais tout jeune philosophe. Je me retrouve avec plein de philosophes européens dans ce petit groupe. Et tous les philosophes, qu'ils soient italiens, allemands, autrichiens, Serbes, Croates disent qu'il ne faut surtout pas parler d'une guerre ethnique. Il ne faut surtout pas, dans le fond, enfermer les Serbes, les Croates et les Bosniaques dans une appartenance ethnique différente. Donc on renvoie tout un rapport. Arrivent ensuite les discours officiels, etc., qui s'étaient complètement assis sur cette expertise, qui reprenaient complètement les termes dont on avait mis un certain temps à démontrer que précisément il ne fallait surtout pas les écouter, parce qu'il ne fallait pas les réutiliser, parce qu'ils ne faisaient que reconduire la guerre. Ils ne faisaient que s'installer dans la logique de guerre. Donc moi, j'ai beaucoup de peine à imaginer le pouvoir politique prêtant une oreille extrêmement attentive à l'expertise de la société civile, et j'ai plutôt l'impression que c'est de là que vient en général le fond du problème et la façon dont à tous les échelons, le pouvoir politique regarde toujours les mouvements associatifs avec une certaine suspicion quand même, avec un certain recul et une certaine suspicion.
Je vais repasser la parole à la salle à nouveau.
Je voudrais un peu remonter le moral de l'assistance avec l'expérience du Comité consultatif national d'éthique. Comme vous le savez, la France a été la première en Europe à créer un comité national d'éthique, et ce comité national d'éthique promulgue des lois de bioéthique. Ces lois de bioéthique doivent être renouvelées tous les 7 ans. En 2017, le président du comité d'éthique, Jean-François Delfraissy, a préparé la révision des lois de bioéthique. Et on a organisé à travers la France entière des états généraux de bioéthique. Mmh. Je peux vous dire que, pour avoir vu les résultats, ils étaient extrêmement intéressants. Le comité d'éthique a recueilli les résultats. On a fait un projet de loi. Et ce projet de loi, eh bien, il a été voté par les politiques en Assemblée nationale. Et Jean-François Delfraissy, avec qui j'ai passé l'après-midi, m'a dit qu'il préparait les prochaines révisions de bioéthique et qu'il relançait en province, partout, où se déplaçaient certains membres du comité. Et donc, cette expérience montre que ça peut marcher.
Merci. Je valide complètement ce que vous dites. Les états généraux de la bioéthique ont été exemplaires en la matière pour une raison bien simple, c'est que l'ensemble des acteurs concernés se sont mis d'accord sur ces recommandations-là et qu'il n'était politiquement pas possible de délégitimer cette démarche. C'est en ce sens que une initiative portée par la société civile au sens étendu du terme. Encore une fois, ce n'est pas les citoyens en leur nom propre qui sont profanes en la matière, c'est l'ensemble des acteurs incluant le champ économique, marchand et non marchand. C'est l'ensemble des collectivités et des territoires, c'est l'ensemble des professionnels concernés. Et c'est un échantillon représentatif des citoyens qui, à un moment donné, en tant que bénéficiaires, ont un rôle, évidemment, à jouer dans l'équation. Mais à partir du moment où on réussit cette alchimie-là, et qu'il y a une masse, une dimension massive, une dimension volumique, une dimension de représentativité, la légitimité, elle est incontestable, même pour un politique fut-il cynique.
Oui, mais
Allez-y, puis ensuite on va passer. Oui,
d'accord, mais est-ce qu'il ne faudrait pas faire une différence quand même entre des conventions qui sont initiées quand même par le pouvoir politique et des mouvements associatifs qui sont complètement indépendants du pouvoir politique, qui ont leur expertise propre et qui ont, eux, n'ont pas dans le fond d'emblée l'oreille du pouvoir politique et qui doivent la trouver. Je pense que il y a une différence entre ce que vont faire des mouvements associatifs qui interviennent auprès des migrants, auprès des sans-abri, auprès des gens les plus précaires, etc. Et puis, un comité d'experts ou qui serait nommé par le pouvoir politique et qui réunirait des citoyens pour en parler, mais où ça serait quelque chose de complètement vertical. Là, je trouve que dans le fond, l'un des enjeux énormes de la discussion, c'est la différence entre ce qui est vertical, ce qui est l'émanation du pouvoir politique, et ce qui vient, au contraire, d'une société civile horizontale, faite d'un maillage, d'un réseau peut-être, c'est pour ça que c'était le sens de ma question, de mouvements associatifs. Et si on parle de participation, peut-être que c'est plus au niveau d'une horizontalité qu'elle peut se créer que d'une verticalité.
Je propose qu'on prenne une question au pied.
Merci infiniment, d'autant que ma question va reprendre des éléments que vous avez portés au débat, et notamment l'initiative de cette jeune étudiante cet été, qui, dans un mouvement, on pourrait dire, de colère liée à ce défi des enjeux écologiques, se propose d'utiliser un outil de démocratie participative, on pourrait dire. Alors, est-ce que vous le qualifierez de cette manière? Il y a un outil possible qui est celui d'en appeler à cette pétition citoyenne. Il faut un certain nombre de signatures. Et du coup, là, il y a dans notre démocratie la possibilité de mobiliser les politiques à partir d'une prise de conscience large, et d'où les 2 millions de signatures. Et du coup, j'aimerais comprendre comment vous analysez cette capacité qui, là, semble un peu enrayée compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale, mais comment cet outil qui est là fait, on pourrait dire, effet, on pourrait dire, de participation et est repris par les politiques et par le gouvernement, probablement, dans le meilleur des cas, et justement, quels sont les blocages qui font que ça ne fonctionne pas, alors que l'outil démocratique est là. J'aimerais qu'on revienne sur cet enjeu de démocratie participative et des clés qui sont déjà là en puissance, on pourrait dire.
Pour moi, je suis un petit peu intriguée.
Mettez bien le micro.
Je trouve que cette question, cette notion même de démocratie participative, elle est un peu à double tranchant, parce que quand on parle de la société civile organisée, on ne parle pas forcément de démocratie participative. En réalité, la société civile organisée, elle a d'abord des formes multiples, on le voit bien dans nos différentes interventions, mais en plus, cette société civile organisée, précisément, elle est organisée et elle essaie de faire monter en puissance des sujets, des situations. Vous parliez des migrants, on parle de questions d'environnement, on parle de questions de pollution, etc. Elle essaie de faire monter ces éléments pour que les pouvoirs publics puissent les reprendre. Et je rejoins tout à fait ce que vous dites, c'est pas tout à fait la même chose que les initiatives qui sont prises par les pouvoirs publics pour saisir de manière quelquefois un peu instrumentalisée les opinions des citoyens. Donc je trouve que là, il faut faire quand même vraiment la différence. Et que dans cette société civile organisée, la grosse difficulté, c'est justement quand même d'articuler ses moyens, parce qu'elle n'a pas tant de moyens que ça, pour se faire écouter par des pouvoirs publics qui ne les écoutent quand même que très peu, que si ça va dans le sens, mais quand même que très peu, et pour obtenir que ces sujets soient repris par ce qu'est la démocratie représentative. Et moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a quand même une nécessaire, je pense, et dans nos intervenants, dans notre numéro, il y a une interview très intéressante de Nicolas Rio qui explique comment est-ce que pour lui, les associations doivent pouvoir vraiment s'inscrire dans les démarches de démocratie représentative pour être présent là où il y a la représentation. Parce que certes, on peut rêver d'une démocratie participative, etc., mais n'empêche qu'en attendant, on est quand même dans des démocraties représentatives, sauf que dans nos démocraties représentatives, il y a 30, il y a 40% d'abstention à certaines élections. Il y a quand même des abstentions de façon majeure. Mais n'empêche que au total, le pouvoir, il est pris par ceux qui nous représentent. Et donc, pour les associations, il y a la nécessité d'arriver à atteindre ces personnes. Et donc, ça peut être par la pétition, ça peut être par des mobilisations qui montrent de la colère, ça peut être par ça peut être aussi par des voies plus institutionnelles. Hein. Certaines associations, elles ont vraiment des responsables de plaidoyer pour essayer d'aboutir à obtenir des résultats très concrets à l'Assemblée nationale, etc. Mais je crois que on n'est pas avec la société civile organisée dans une démocratie participative où tout se passe comme si on pouvait intervenir comme on le voulait n'importe quand. C'est quand même cette société civile organisée, elle a des chances d'obtenir quelque chose si elle arrive à s'organiser, à utiliser tous les répertoires d'action, comme on dit, pour atteindre ceux qui détiennent le pouvoir, et si de l'autre, parce que par contre ça c'est évidemment très important, elle arrive à répondre, à trouver les moyens d'être suffisamment proche du terrain pour que elle reprenne ses colères, ses frustrations qu'on repère de plus en plus un peu partout. Mais je trouve qu'il y a un peu de clarification à faire sur les modes d'action.
Est-ce qu'il y a encore une question de la salle ou Franck ?
Non, mais juste très brièvement pour rebondir, la société civile organisée, sa caractéristique, c'est qu'elle est organisée. Et c'est bien le problème. C'est-à-dire que il y a de plus en plus de citoyens aujourd'hui qui ne veulent pas être représentés. Et singulièrement dans les jeunes générations. Qui ne veulent pas qu'on prenne leur voix et qu'on soit représenté par une structure, fût-elle encore une fois associative, représentant des intérêts spécifiques, catégoriels, etc. C'est une réalité sociologique. Enfin, nous, on le voit, mais quotidiennement. Moi, je ne peux pas me déplacer dans une assemblée citoyenne sans qu'on me dise, et moi, je suis ravi de m'exprimer en mon nom propre parce que je ne supporte plus d'être représenté par des représentants que je n'ai pas choisis, singulièrement le secteur associatif. Et je n'ai pas du tout un discours anti-association en disant ça. Je mets le doigt sur une complexité. Une complexité de dynamique, de conviction. Ça, c'est vraiment un point à garder en tête.
Oui. Une dernière question.
Oui, merci. Vous avez parlé du manque d'écoute, du manque de dialogue. Est-ce qu'il n'y a pas tout simplement aussi un manque de confiance de la société civile envers les pouvoirs politiques, et à l'inverse, manque de confiance du pouvoir politique envers la société civile, et aussi, je dirais, manque de confiance de la société civile envers elle-même, au fait, envers ce qu'elle peut faire aussi.
Je peux répondre.
Oui, tout à fait. Ça, c'est clair. Hein. Un manque de confiance dans un sens, société civile politique et inversement. Et ça, en France, c'est un peu historique, hein, cette suspicion de la part des acteurs politiques vis-à-vis de ce qu'on appelle la société civile. Alors moi j'ai aimé votre entrée là par l'entrée sur le thème de la colère. Mais après la question que je me pose c'est mais comment on passe de la colère à l'engagement? Et après je me suis dit en écoutant vos propos sur la colère, en la réhabilitant dans une certaine mesure, je me dis que ce soir notre objet c'est vraiment une réflexion sur la démocratie. Et peut-être plus que la colère, j'ai envie de dire, le problème aujourd'hui dans nos familles, dans nos communautés, dans nos collectifs, c'est la gestion du désaccord. Enfin, Claude Lefort, qui est un spécialiste du modèle démocratique, régime autoritaire, le martelait. Le propre de la démocratie, c'est permettre l'expression des désaccords. Et là, je pense réellement que l'un des mérites, en tout cas de ce qu'on appelle la société civile, c'est ce maillage, cet ancrage, ou même les gilets jaunes, enfin l'informel, le convivial, de permettre ce débat contradictoire. Ce que je voudrais dire aussi, quand même, pour garder le moral, c'est que nous, notre enquête, je le disais, nous a donné de l'énergie, mais on voit que la capacité, quand même, de la société civile face aux nombreux obstacles, aux difficultés, ben, elle fait preuve d'innovation. On a vu, en tout cas, au cours de nos entretiens, que beaucoup d'acteurs privilégient une approche par le bas, c'est-à-dire l'empowerment ou le développement du pouvoir d'agir. Vous voyez ce que c'est? C'est-à-dire qu'au Secours catholique, de plus en plus, on veut vraiment placer les personnes en situation difficile comme des acteurs à part entière. Et ça va très loin, parce qu'il y a même des expérimentations où, par exemple, ATD Carmonde a développé le croisement des savoirs, c'est-à-dire la production de connaissances, pas uniquement par le haut, mais avec des spécialistes, des universitaires, mais aussi des gens qui sont engagés professionnellement, mais aussi vraiment un crédit qui est accordé aux personnes directement concernées par la pauvreté. Donc voilà, ça traque de longue haleine. Mais je crois ce qui a été dit aussi tout à l'heure, c'est vraiment un objet qui méritait de creuser. Et moi, je vous invite à donner ce que vous êtes plus précieux. Voilà, ce n'est pas votre argent. Non, c'est votre temps. Non, mais là, franchement, on avance. On n'a pas parlé des échéances, cette recomposition politique, les menaces qui se... Enfin, excusez-moi, monsieur Bruno Retailleau, enfin, voilà, qui a un discours essentialiste au sujet des migrants. À un moment donné, il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va construire? Qu'est-ce qu'on va laisser aux générations futures? Et là, notre responsabilité est en jeu. Donc, l'engagement, ce n'est pas forcément pour plusieurs années, mais au moins ponctuellement, 5-6 ans. Et allons voir ceux et celles avec qui on n'est pas d'accord. Dans notre dossier, là, la revue Projet, on essaye de comprendre ce que dit le vote du le Rassemblement national.
Enfin, À ce sujet, La Croix lance en novembre. Vous pouvez aller sur le site de La Croix. Faut qu'on parle. C'est le fait de rencontrer une personne avec laquelle vous ne partagez rien et vous n'êtes pas d'accord et essayez de parler ensemble. Donc c'est la deuxième année qu'on lance cette initiative. Allez sur le site de La Croix, je pense que vous trouverez des choses là-dessus. Étienne.
Voilà. Merci beaucoup pour ces échanges qui ont été passionnants. Je voulais vous annoncer le titre de notre prochain Mardi d'éthique publique qui sera « Une parole chrétienne est-elle possible sur Gaza ?» Sujet là encore aussi difficile. Je vous rappelle que vous pouvez contribuer à l'organisation de ces mardis d'éthique publique en versant une obole à la sortie de la salle. Donc vous avez deux façons de le faire. La première, c'est de régler directement avec des espèces dans les urnes qui sont posées. Et l'autre, qui est juste à gauche, qui est de régler en carte de crédit. Voilà, je vous remercie infiniment. Très bonne soirée.